Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yakuba Ouédraogo, ravi de vous retrouver pour Sporama. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous.
Élisée Mpatine est en direct depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous d'être là. Essentiellement, trois sujets pour ce numéro de Sporama. La CAN des moins de 20 ans qui se joue présentement en Égypte, la Ligue des champions et la Coupe CAF, le Mondial des clubs 2025 avec désormais 4 places pour l'Afrique. Nous allons aussi parler du Grand Prix de Dakar, souvenez-vous, une compétition de motos, scooters et voitures qui a eu lieu le week-end écoulé dans la capitale sénégalaise. Les détails dans très peu de temps avec le promoteur Maodo Girandou qui sera en direct de la capitale sénégalaise. Mais bien avant, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Tout au long de cette émission, nous allons garder une pensée positive à l'égard de Christian Atsu. Le corps du footballeur ghanéen a été rapatrié hier au Ghana. Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans dans le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Après 2 semaines de recherche, son corps a été retrouvé samedi dans les décombres de l'immeuble où il vivait à Antakya. Le frère et la sœur du joueur étaient présents sur les lieux au moment de la macabre découverte. Il laisse derrière lui sa veuve Marie-Claire Roupio et les 3 enfants qui ont assisté à un hommage rendu au joueur à Newcastle, l'un de ses anciens clubs, samedi avant un match de Premier League contre Liverpool. L'attaquant international ghanéen avait joué aussi à Porto et à Chelsea, notamment avant de signer pour Antalya Spor en Turquie en 2022. Il a joué son dernier match pour ce club donc la veille du séisme, soit le 5 février. Simplement, repose en paix, champion. Suite, ce lundi, des matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 20 ans qui se jouent en Égypte. Les équipes de la poule B ont effectué leur première sortie ce lundi. La République centrafricaine a été battue par l'Ouganda 2-1. Le match entre le Soudan du Sud et le Congo-Brazzaville vient de s'achever. Score 2-1 pour les Diables Rouges juniors congolais. Hier, dans le groupe A, le Sénégal a battu le Nigeria 1-0 et prend la tête de cette poule A devant le pays hôte, l'Égypte, tenue en échec par le Mozambique 0-0. Amdine, c'est bien parti pour les Lionceaux.
Tout à fait, Yakuba. Le Sénégal a entamé cette compétition de la plus belle des manières en s'imposant devant le Nigeria. Le Nigeria, grand favori de cette compétition, pour l'avoir remporté à 7 reprises, les Sénégalais se sont imposés grâce à un but de Souleymane Faye, un but intervenu à la 41e minute sur une frappe de son capitaine, le métronome Samba Diallo. Le gardien de but a repoussé le ballon et Souleymane Faye, un bon renard des surfaces de réparation, a inscrit ce but qui a permis au Sénégal de remporter cette rencontre. Et du coup, de prendre sa revanche sur cette équipe du Nigeria qui l'avait gagné en finale de la CAN. C'était en 2015 à Dakar. Avec cette victoire, comme vous l'avez dit, les poulains de Malick Diaf s'emparent de la première place du groupe A, car l'autre match s'est sanctionné par un nul puisque l'Égypte a été cédé en échec par le Mozambique. Le Sénégal jouera son deuxième match mercredi face au Mozambique, alors que le Nigeria affrontera l'Égypte Yakuba.
Merci Amdine. Les matchs de cette première journée se poursuivent demain mardi avec le groupe C qui entre en compétition. La Gambie affronte la Tunisie et le Bénin fait face à la Zambie. Élisée, les guépards juniors, c'est la première fois que je prononce cette expression, ne doivent pas se louper d'entrée.
Bien non, puisque le communiqué qui demande prochainement d'appeler l'équipe nationale du Bénin de football masculin, l'équipe est sorti il y a de cela 3 jours, signé par le ministère, même puisque il revenait au gouvernement, au ministère des Sports, de valider cette proposition de la Fédération béninoise de football. C'est chose faite désormais et les équipes masculines du Bénin seront appelées, l'équipe et les équipes féminines, les Amazones. on connaît très bien ce que les Amazones ont fait dans le royaume du Dahomey. Voilà. Donc le Bénin joue la Zambie demain, un match très attendu au vu de la préparation de cette sélection, puisque c'est pour la première fois qu'on voit le gouvernement s'y mettre tant dans une sélection de catégorie d'âge. Sinon, on le sait tous, puisque ce sont seulement les seniors qui sont pris en compte, j'allais dire pas le gouvernement. Donc il y a eu une très bonne préparation pour cette équipe junior, des stages à Cotonou, à Johannesburg, au Caire et récemment même à Casablanca, au Maroc, où je les ai même rencontrés. Je me suis un peu entretenu avec le sélectionneur qui me faisait comprendre que ça s'est bien passé et que les moyens ont été mis pour avoir une très bonne préparation. Le conseiller technique du ministère, Jean-Marc Ajovivoko, qu'on connaît très bien, ancien capitaine du club Messin de la Ligue 1 française, avait accompagné cette sélection. Lui aussi me disait que cette sélection s'est bien préparée dans de très bonnes conditions et il faut attendre maintenant les résultats sur le terrain. Et connaissant la Zambie, ancienne championne d'Afrique des Nations, avec ses générations de personnes Dakar, on le sait très bien, la Zambie a toujours eu de très belles sélections de football de catégorie d'âge. Ce sera une entrée très attendue, puisque là, il faudra jouer très haut, très fort et être très solide, presque dans tous les compartiments pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Donc demain, on verra si les écureuils pourront bien rentrer dans la compétition comme l'a fait le Sénégal, l'Ouganda ou encore tout à l'heure même le Congo-Brazzaville. En tout cas, l'objectif c'est d'aller à la prochaine Coupe du Monde des Nations, donc se qualifier au moins pour les demi-finales.
Élisée, vous avez répété écureuil. Désormais, c'est guépard.
Et donc peut-être depuis 1960 jusqu'à 2022, c'est les écureuils. Donc ça va être difficile, mais on va s'y adapter.
Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Est-ce que vous pensez que guépard, ça fait plus peur qu'écureuil?
Bon, selon le président de la Fédération Béninoise de football, de Jacques Mathurin, le long départ sera plus peur que les écureuils. Mais nous le savons tous, le long ne joue pas. La France a été plusieurs fois championne du monde, encore vainqueur de la Coupe d'Europe des Nations, grâce à l'appellation Coq ou les Bleus. Vous imaginez la sélection, ça veut dire la sélection des équipes ont remporté des trophées grâce à des Chipolos Polo. Par exemple, la Zambie a remporté la CAN avec les Chipolos Polo, les Bafana, l'Afrique du Sud, vous voyez. Donc, pas évident que le nom joue en football. Doute. Mais comme ce sont ceux-là qui gèrent le football béninois aujourd'hui, on ne peut que se référer à ceux qui vivent.
Élisée, on va recueillir l'avis d'un douanier assez averti sur ces questions-là. Alors, Jules, que pensez-vous de ces changements d'appellation des équipes nationales béninoises? Guépard pour les hommes, Amazon pour les femmes.
Oh, mais vous savez, c'est généralement pour essayer de donner un coup d'accélérateur à une équipe qui est souvent talentueuse, mais les résultats ne suivent toujours pas. Bon, alors, le nom écureuil, pour moi, représentait surtout la malice et disons que la technique des joueurs béninois qu'on connaît depuis toujours. Et en donnant un nom de fauve, on aimerait qu'ils aient un peu plus d'agressivité et d'ambition, peut-être, pour gagner et des trophées. En ce qui concerne les dames, tout le monde connaît les Amazones de Béhanzin. Et donc, cette guerrière qui ont fait la fierté de toute l'Afrique, qui deviennent un symbole de la femme, disons, la femme impliquée dans le développement, dans la guerre, mais aussi dans le développement. Donc je pense que ce sont des noms de circonstances qui pourront changer peut-être après.
Parlons à présent des rencontres interclubs sur le continent. Les matchs de la deuxième journée ont été disputés ce week-end. Deux victoires et en deux sorties. Pour les Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, les Sud-Africains se sont imposés 3-1 sur le terrain de Coton Sport de Garoua. Ils comptent désormais 6 points. Ils sont en tête donc du groupe B devant les Soudanais d'Al Hilal, vainqueur 1-0 d'Al Ali du Caire. Jules, Coton Sport qui tombe lourdement à domicile, 3-1, c'est quand même beaucoup. Surprenant selon vous?
Non, en fait, ce n'est pas tellement une surprise. Si on voit le standing de Mamelodi Sundowns, un récent champion d'Afrique et qui, ma foi, s'est engagé activement dans le professionnalisme et régulièrement aux premières loges. Et ensuite, il a rencontré une équipe de Coton Sport qui n'était pas très professionnelle, puisque, en fait, le match est joué en début de rencontre. Après 15 minutes, les Sud-Africains ont marqué 2 buts et le troisième but est entré à la fin, de, disons que, aux 5 dernières minutes de la première mi-temps, dans une période sensible où toute équipe raisonnable perd les boulons. Bon, donc, ça veut donc dire que le staff technique camerounais n'avait pas visionné et probablement ces Sud-Africains qui sont surnommés Brésiliens chez eux. Ils les ont laissés jouer et ceux-ci, en quelque sorte, en ont profité pour étaler tous leurs talents. La preuve, c'est que quand les Camerounais se sont mis à jouer avec sur leur propre valeur et en utilisant plutôt leur impact physique et en créant un deuxième rideau au milieu de terrain, le match s'est équilibré, mais il était trop tard et disons que la messe était dite. Donc, victoire méritée des Mamelodi Sundowns qui sont parmi les favoris de la poule, de toutes les façons, aux côtés de Al Ahly.
2 matchs, 2 victoires aussi hein, pour le Raja de Casablanca qui a dominé Simba 3-0 en Tanzanie. Analyse de la rencontre avec Amin Birouk, notre correspondant sur place à Casa.
Pour le meilleur des mondes, Yacouba, en faveur du Raja de Casablanca. Un club qui, au démarrage de la saison, était balbutiant, avec un recrutement peu convaincant. Un entraîneur contesté, Fawzi Benzarfi, qui depuis lors a quitté le navire dès la 3e journée du championnat marocain. L'arrivée de l'entraîneur Mondial Kebeyer a offert un peu de répit, il y a eu un état de grâce et surtout, ce dernier a pu travailler dans la sérénité pendant la pause due à la Coupe du Monde. Il a pu recomposer sa stratégie et surtout, son président lui a apporté les renforts nécessaires en termes de mercato. Aujourd'hui, c'est une équipe conquérante avec un pressing assez haut qui donne du rythme, qui se montre audacieuse dans le jeu. Preuve en est les 8 buts inscrits en 2 matchs de Champions League, 5 contre Vipers la semaine dernière et 3 contre l'équipe de Simba. Samedi, devant 70 000 spectateurs acquis à la cause du club tanzanien, les joueurs du Raja n'ont jamais tremblé. Ils ont pris l'initiative dès le début du match. Ils ont pu prendre le score à leur compte dès la fin de la première mi-temps grâce à une frappe lumineuse de Hamza Khaba. Et puis en toute fin de rencontre, ils ont réussi à porter les Stogad à 2 reprises par Benjdida et par Mokaddem sur pénalty. Une victoire méritée et surtout une opportunité ce samedi en cas de réception de l'équipe de Oroya et surtout en cas de victoire pour déjà composter le ticket pour les quarts de finale de la compétition.
Et justement, les Guinéens de Oroya occupent la 2e place de ce groupe C après leur nul 0-0 sur le terrain des Ougandais de Vipers. Amdine, le Oroya se maintient dans la course pour les 8e de finale malgré ce nul, mais il faut désormais quand même être vigilant parce que le prochain adversaire, c'est le Raja.
Tout à fait, Yacouba. Vainqueur 1-0 contre le Simba lors de la première journée, les Guinéens ont été quand même tenus en effet par les Ougandais. Mais c'est un bon nul puisqu'ils étaient en déplacement. Certes, les Ougandais ont été quand même humiliés par le Raja de Casablanca, 5-0 lors du premier match. C'est pourquoi tout le monde pensait que les Guinéens allaient aussi gagner. Mais c'est comme ça, les déplacements sont toujours difficiles en Afrique. Maintenant, comme vous l'avez dit, le Oroya est à la 2e place derrière le Raja de Casablanca. La prochaine journée, ce sera le choc entre ces 2 formations. Ce sera une finale avant la lettre. Maintenant, les Guinéens doivent négocier ce match pour pouvoir quand même s'en sortir, même avec un match nul, pour pouvoir conserver la 2e place qui pourra les qualifier pour le second tour. En tout cas, on va assister à un choc explosif entre Marocains et Guinéens, Yacouba, lors de la 3e journée de cette Ligue africaine des champions.
L'Espérance de Tunis a aussi fait un sans faute jusqu'ici dans le groupe D. Les Tunisiens victorieux 1-0 sur la pelouse du CRB. Louis Dad compte 6 points. Ils sont donc premiers de ce groupe-là. Les Soudanais d'Al Merrek et les Égyptiens du Zamalek qui sont neutralisés 0-0. Et puis, dans le groupe A, dominé par les Angolais du Petro de Luanda et les Algériens de la JS Kabylie, victorieux respectivement 2-1 à Kinshasa de l'AS Vita Club et 1-0 donc face au Wydad de Casablanca qui peine depuis sa sortie prématurée du Mondial des Clubs. C'est l'avis d'Amin Birouk.
Il y a eu les critiques du match contre l'Hilal d'Arabie Saoudite. Il y a eu aussi une vision peu flatteuse lors du match contre le Maghreb de Tétouan en Coupe du Trône où Louis Dès s'est qualifié sans proposer énormément de jeux et au tir au but, dans la difficulté, dans la douleur. Et il y a eu la pâle copie présentée face à la GSK. Aujourd'hui, tous les doigts accusateurs sont pointés vers le président Saïd Nasseri, mais aussi vers l'entraîneur Mehdi Nafti. Le président, parce qu'il a fait preuve d'immobilisme pendant la période de préparation de la Coupe du Monde, au moment où de se séparer de Hossein Amouta pour un malentendu, et dans le choix d'un entraîneur, Mehdi Nafti, qui n'a jamais coaché au plus haut niveau. Il a entraîné des clubs en deuxième division en Espagne, certes, mais jamais il n'a eu autant de responsabilités. Aujourd'hui, les publics et les supporters Wydadi sont sceptiques. Ils attendent une réaction d'orgueil de la part des joueurs. Et surtout, ils s'attendent à du changement sur le banc de touche. Mehdi Nafti est le fusible idéal. Pour qu'il puisse ne pas sauter, il va falloir qu'il gagne à El Jadida en championnat contre le DHJ ce mardi. Et surtout qu'il offre une version plus convaincante de son équipe avec la victoire et la manière contre Petro Atlético vendredi.
Ah, qui est bien dit, Amine Birouk. On jouait aussi la deuxième journée en Coupe de la Confédération. Très rapidement, les résultats. Hein. Les Sud-Africains de Marumo Gallants ont dominé le groupe A avec 6 points suite à leur succès 2-1 sur la pelouse des Congolais de Lupopo. Le groupe B est dirigé par les Diables Noirs du Congo malgré leur nul 0-0 face au Daring Club Motoma Pembe. Lourde défaite des Ivoiriens de l'ASEC Mimosa 3-0 au Nigeria devant Rivers United. On note aussi la belle opération des Phares de Rabat qui ont étrié les Togolais de l'ASCO de 45 buts à 1. Satisfaction donc pour le coach de phare, Fernando da Cruz. Les Marocains restent en tête du groupe C puisque les deux clubs égyptiens, Futur et Pyramide, ont fait match nul, un but partout. Et de son côté, le tout-puissant Mazembe chute dans le groupe D, battu 3-1 par les Tanzaniens de Young Africans, ce qui profite aux Tunisiens de l'US Monasti, désormais seul leader du groupe, après leur nul 1-1 sur le terrain du Real de Bamako. Vous écoutez Sporama sur VOA Afrique, une courte pause et on revient tout de suite. L'Afrique aura 4 représentants sur 32 prévus par la FIFA pour le Mondial des clubs. Nouveau format qui aura lieu en juin-juillet 2025. 4 places aussi pour l'Asie et l'Amérique du Nord et l'Amérique aussi centrale. L'Amérique du Sud aura 6 représentants et comme il fallait s'y attendre, les clubs européens seront le plus représentés avec 12 places, soit le tiers des participants à la compétition. Élisée, qu'est-ce que vous pensez de cette répartition faite par la FIFA?
Yacouba, il faut dire que la FIFA est en train de tout mettre en place pour capitaliser toutes ces compétitions. Vous le savez, après l'échec de la Ligue des Nations, de la Super League des clubs, la Super League des clubs, voilà, j'y arrive, la Super League des clubs, il faut dire que l'Afrique veut l'adopter et difficilement, ça n'arrive pas à se concrétiser puisque financièrement, il faudrait être solide de par les sponsors. Aujourd'hui, la FIFA a les sponsors nécessaires pour pouvoir faire évoluer cette bon nombre de clubs sur la planète Terre. Aujourd'hui, l'Afrique aura 4 représentants, hein, c'est vrai. À la dernière participation, nous avons eu 2 représentants. Seul le Al Ahly est allé jusqu'en demi-finale. C'est vrai que par le passé, on a déjà eu au moins 2 finales. On a déjà disputé au moins 2 finales avec le TP Mazembe et le Raja de Casablanca. Maintenant, est-ce qu'on fera mieux? C'est d'autant plus que l'Europe aura le plus grand nombre de participants. Vous savez, le football européen est tellement au-dessus, notamment professionnellement, on connaît bien les grands clubs, ne gagnent pas la Ligue européenne des champions, et qui veut, mais qui peut, puisque là, c'est la plus grande compétition des clubs qu'il y a sur cette planète. Et donc, on espère qu'avec ces 4 participations, l'Afrique peut se révéler enfin, pourquoi pas ne pas aller chercher le trophée.
Élisée, c'est tout le mal qu'on va souhaiter au continent. On tire vers la fin de l'émission, on va avancer très vite. Alors, Jules, à partir de 2025, le Mondial des clubs va se disputer tous les 4 ans. Gianni Infantino poursuit ses réformes.
Oui, mais il faut dire qu'avec la pléthore de compétition maintenant, il faut bien sûr essayer d'espacer. Les années passées, il y a tellement de compétitions, mais en même temps, la FIFA a besoin de fonctionner, a besoin de financer le football mondial et que l'Afrique soit en phase avec ses organisations et successives, ce n'est qu'une bonne chose puisque les caisses des équipes africaines vont aussi se remplir et l'argent est le nerf de la guerre.
Absolument, nous changeons de discipline et direction Dakar pour parler du Grand Prix de Dakar, une compétition de motos, scooters et voitures disputée le week-end écoulé dans la capitale sénégalaise. Nous retrouvons tout de suite en direct de Dakar Maodo Girandou, promoteur de cette compétition. Bonsoir Maodo. Bonsoir Maodo, si vous m'entendez.
Oui, bonsoir Yakuba, bonsoir.
Alors, j'imagine que vous avez encore la fatigue du week-end. Dites-nous, comment se sont passées les différentes compétitions?
Nous sommes très émus en fait, Yakuba. Nous sommes très émus parce que c'est une première. C'est une première que nous avons réalisée en 50 jours. Personne n'y croyait. Mais nous nous sommes battus avec mon comité d'organisation, avec la fédération, avec toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour réaliser ce chef-d'œuvre sur Dakar.
Alors, en termes d'engouement, est-ce que vous êtes satisfait, en termes d'engouement aussi, mais aussi en termes de prestations, hein, des différents sportifs qui ont pris part à ces différentes courses-là, moto, voiture, scooters?
Alors, malheureusement, Yakuba, nous n'avons pas eu d'inscrits en scooter. Nous n'avons pas eu d'inscrits en moto, mais les scooteristes et motards sont venus faire le show durant ces deux jours de compétition, durant ces deux jours lors de ce premier Grand Prix de Dakar qui a été organisé sous l'égide, je vous le rappelle, de la Fédération sénégalaise de sport auto et moto, ce qui est très, très, très sérieux. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'inscrits en moto et en scooter, mais ce n'est pas grave. On les attend pour la deuxième édition, Inch'Allah, en espérant qu'ils vont s'inscrire cette fois-ci. Ils ont vu la compétition, ils ont vu ce dont nous étions capables d'organiser sur Dakar. Alors j'aimerais tout d'abord remercier la préfecture de Dakar parce que ce n'était pas évident d'avoir une autorisation sur ce terrain. Un grand merci à M. le préfet de Dakar, à son adjoint, Mme Diouf, à la gendarmerie nationale du Sénégal, à la mairie de Dakar.
Maodo,
il faut savoir que ce premier Grand Prix de Dakar, oui, Yakuba.
Oui, vous avez évoqué un volet social lundi passé, prévu bien sûr lors de cette compétition-là. Est-ce que vous avez finalement pu réaliser ce volet social-là?
Alors, je vais vous dire totalement. C'était génial. Le samedi, les gens étaient un peu timides. Et bien, le dimanche, j'ai dû prendre le micro central et j'ai envoyé un étudiant de BEM, parce que nous avons collaboré avec les étudiants de BEM qui étaient intéressés par cet événement. Alors, j'ai demandé à un étudiant de prendre une casquette et d'aller voir les gens dans le public. Et comme on dit au Sénégal, main dans la poche, le roti poche. Et il faut participer. Et tout le public a participé et on a remis des dons au village SOS Enfants. Et là, ça m'a fait énormément plaisir parce que ce côté social, j'y tiens tant. Même si on parle de sport mécanique, on ne peut pas mélanger tous les métiers. Mais c'était très, très, très important pour nous, organisateurs de ce Grand Prix de Dakar, dont le maire Marcel Béjaz était le parrain de cet événement. Franchement, nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues à ce Grand Prix de Dakar.
Merci beaucoup, Maodo Girandou. Je rappelle que vous êtes le promoteur du Grand Prix de Dakar. Élisée, très rapidement, en 1 minute 30 secondes, 45 secondes si tu peux, qu'est-ce que tu penses de tels événements sportifs sur le continent? Une compétition de voitures, qui rappelle aussi la Formule 1, il faut le dire. Élisée, si tu m'entends? Voilà, Élisée, il est parti bien avant l'heure. On va clore cette émission. Malheureusement, on tire vers sa fin. C'est ici donc que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Nkpatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngwe depuis Libreville au Gabon, Amdine Sy, c'est dans l'Ohio, à Columbus, ici bien sûr aux États-Unis. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yakuba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Sporama. Mais en attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec l'incontournable Jean-Roger Billon. Au revoir.